devrait déjà être terminé, donc je serai très très court. On va lire le passage et avec une certaine rapidité, je vous donnerai les quelques pensées que j'en ai retirées. Exode chapitre 17, alors verset 8, c'est le combat contre Amalek. Exode 17, verset 8. Je ne me voyais pas couper la prière, on était bien à prier les uns avec les autres. Amen. Exode 17, verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. » Frère, priez pour qu'on puisse s'élever. C'est ce que Moïse a fait ici. La verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, donc avec le bâton, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre d'une autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. C'est pour ça qu'on a encore des combats. C'est parce que ce combat ne se terminera pas, il sera de génération en génération. Et on peut relire, je l'ai lu plusieurs fois ce texte, en le relisant avec vous, il y a toujours des nouvelles pensées qui apparaissent. Par exemple, là, en le lisant, je me suis rendu compte qu'il est quand même écrit que Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Josué a eu la victoire parce qu'il a obéi d'abord. Il a obéi à Moïse. Et je pense que si nous voulons être vainqueurs dans la vie chrétienne, il faut être obéissant. Le combat fait partie de la vie chrétienne. Le nombre de batailles dans l'Ancien Testament, c'est impressionnant. La parole de Dieu regorge de combats. C'est toujours d'actualité pour nous les chrétiens. L'Ancien Testament, n'oublions jamais que c'était la Bible des premiers chrétiens. Le Nouveau Testament n'existait pas encore. Toute l'Écriture est inspirée. Amen. Et ils avaient dans cet Ancien Testament, comme nous aujourd'hui, bien des exemples de combats. Paul dit à Timothée, « Souffre avec moi » comme un bon soldat de Jésus-Christ. Un chrétien, c'est donc un combattant. C'est un soldat. Et cela demande de la volonté. C'est dur, la guerre. C'est éreintant. C'est décourageant. Et pour être un soldat, il faut faire preuve de volonté. Certains Ukrainiens nous impressionnent comme ils sont décidés de lutter pour leur pays, que nous puissions aussi, nous, être prêts à peut-être beaucoup même perdre pour Jésus-Christ. Amen. Être combatif. Et puis, il faut participer au bon combat de la foi. Il ne faut pas se tromper de combat. Il y a des mauvais combats. Les combats entre frères, ce sont des mauvais combats. Ce n'est pas le bon combat de la foi. Et puis, d'autres combats dans la vie. Les combats charnels, et c'est le combat de la foi. Ça, c'est difficile pour nous parce que nous sommes charnel, et quand il s'agit de se battre, on a des réactions parfois charnelles. Mais c'est le combat de la foi. Notre combat se vit en s'appuyant sur le Seigneur. On ne va pas combattre avec nos forces, avec notre brutalité ou notre violence, mais c'est le combat de la foi, dans la foi, par la foi, en s'appuyant sur le Seigneur. Dans une bataille, il y a des moments de doute. Il y a des batailles qui ont été remportées in extremis, mais pendant, parce que nous on lit ça facilement, mais les batailles duraient du matin au soir, parfois même plusieurs journées, et il y avait des moments très différents au cours de la lutte, des moments où Israël pouvait prendre l'avantage, d'autres moments où on avait comme l'impression que ça s'inversait et qu'ils étaient en danger. D'ailleurs, la Bible dit que quand le bâton de Moïse baissait, eh bien, les ennemis étaient plus forts. Et dans la vie chrétienne, il y a ces phases où on a l'impression d'être en train de perdre le combat. Mais c'est le combat de la foi. Et c'est quand on est en train de perdre qu'il faut croire. Sinon, à quoi sert la foi quand tout va bien? Après la tempête, Jésus se retourne vers les apôtres et leur dit: où est votre foi? Souvent, elle disparaît quand on en a besoin. C'est au cœur de la difficulté qu'il faut continuer dans la lutte, ce combat, ce bon combat de la foi. Parce que nous sommes dans un bon combat. Il y a beaucoup de gens qui ont des mauvais combats dans leur vie et pourtant ils se sacrifient pour devenir un champion, pour gagner la Coupe du Monde, je ne sais quoi encore. Nous, on est dans le bon combat, celui du royaume de Dieu, pour la vie éternelle. C'est un combat collectif. Moïse, Aaron et Hur montent sur la colline. Josué et une sélection d'hommes se battent. Ils sont tous ensemble. C'est un combat collectif. Je crois que l'Église, c'est une équipe qui gagnera si elle est unie. C'était un combat collectif. Chacun faisait ce qu'il avait à faire. L'unité dans une armée est primordiale. Une armée divisée ne pourra jamais remporter une guerre. C'est un combat collectif. Combattons ensemble. Amen. Enfin, le plus important peut-être à retenir, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras. Parce que quand Moïse baissait les bras, ça se passait mal dans la vallée. Il y en a un qui ne baisse jamais les bras, c'est celui qui prie pour nous. Alléluia. Il est à la droite de Dieu. Comme Moïse, vous avez remarqué que Moïse était assis. Parce que comme il était assis, ça mettait les bras à hauteur de ses compagnons, qui pouvaient ainsi tenir les bras. C'est Jésus-Christ qui est assis dans les cieux et qui prie pour nous, bien plus grand que Moïse. Alléluia. Il est notre Moïse à nous. Si nous sommes encore sauvés ce soir, c'est parce que Jésus-Christ prie pour nous. Et si demain, nous serons encore sauvés de toutes les difficultés dans le combat, c'est parce que notre grand général prend soin de nous depuis les cieux. Alléluia. La vulnérabilité des plus faibles a été tragique. C'est dans Deutéronome 25, versets 17 à 19, mais on ne peut pas le lire, nous manque le temps, que nous apprenons que Amalek est tombé sur les traînards. Vous pouvez le vérifier, tandis que je vous le dis. Hein. C'est Deutéronome 25, 17 à 19. Il est tombé sur les traînards. Terrible, ça. Ne traînons pas dans l'Église. Ne soyons pas à la traîne dans l'Église. Et ceux qui sont à la traîne, tout de suite, on va penser ceux qui viennent plus. Mais on peut continuer de venir aux réunions, mais le cœur ne plus y être. Ne plus être au cœur de la mêlée. Mais être un petit peu éloigné, en périphérie, à la traîne. Le diable va d'abord s'attaquer à ceux qui s'affaiblissent en ne rejoignant pas pleinement le rassemblement des croyants. Je crois que l'Église vraiment nous protège. Amen. je pense que nous ne serons jamais sauvés tout seuls, mais c'est ensemble que nous le serons. Amen. Jésus veut toujours garder tout ce que le Père lui a confié. Alléluia. La vulnérabilité des isolés fait réfléchir. Et puis l'espérance dans le combat, c'est le verset 14 qui nous le dit. Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Je déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. C'est important dans les moments difficiles d'avoir l'espérance. Dieu dit, Amalek, je vais le détruire. Nous croyons que le combat sera gagné. Quand Jésus-Christ reviendra, il écrasera Satan sous ses pieds, nous dit l'Épître aux Romains. Amen. Nous croyons que dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, on ne se souviendra plus des choses passées. C'est écrit. Que sera effacée la mémoire d'Amalek, de Satan, notre ennemi. Et quand on pense à cette glorieuse espérance, c'est le casque du salut, justement, l'espérance. C'est le casque du salut. Et les croyants, alors c'est la Bible à noter qui le dit, que, et j'ai vérifié, c'est vrai que dans le mot hébreu, le mot bâton peut vouloir dire aussi sceptre, sceptre. Et la Bible à noter dit que quand Moïse baissait ce sceptre, ce bâton, ça décourageait les soldats, parce qu'ils n'avaient plus d'espérance, ils n'avaient plus ce sceptre de puissance élevé. Ce qui nous rend fort dans nos combats, c'est de garder l'espérance en Jésus-Christ. Il revient bientôt. Faut pas l'oublier. Il revient vraiment. Peut-être nous le connaîtrons de notre vivant. Peut-être cette semaine, Jésus-Christ va revenir. Quelqu'un va dire, ah non, il faut qu'il se passe ça, ça, ça et ça. Il faut faire attention avec tout ce qu'on dit dans l'eschatologie parce que, à la fin, on peut penser que plus ou moins, on pourrait voir à peu près quand Jésus reviendra. Mais moi, ce qui me surprend toujours, c'est qu'il est dit qu'il reviendra à un moment où on ne s'y attendra pas. Parce que je crois que dans la parole de Dieu, tout n'est pas clair, 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 clair pour que l'on soit prêt tous les jours. Amen. Le Seigneur peut revenir cette semaine. Et ça, c'est une grande espérance. Ça ne doit pas nous faire peur. Hein. Ne dites pas, si le Seigneur revient cette semaine, je suis perdu. Non. Si le Seigneur revient cette semaine, on est délivré. On est enlevé. Et le diable sera vaincu définitivement. La guerre incessante contre Amalek cessera. L'espérance dans le combat. Alléluia. Et puis... Le bâton de Moïse, je le disais, ça peut être un sceptre. Alors j'ai regardé, je me suis rappelé qu'il existait le bâton de maréchal. Alors j'ai vérifié, il n'y a plus de maréchaux aujourd'hui en France. Parce que pour être maréchal, c'est le plus haut titre dignitaire dans une armée. Et pour être maréchal, il faut avoir participé à des guerres et voilà. Mais le maréchal, c'est vraiment un titre, une dignité militaire. Et le bâton de maréchal est un symbole de son pouvoir de guerre. Alors oui, ce bâton-là avait ouvert la mer Rouge. Va ouvrir la mer Rouge, c'est après. Ce bâton-là va ouvrir la mer Rouge. Mais avant, ce bâton-là élevait ce sceptre du plus grand des maréchaux. Il a vaincu Amalek pour Josué dans la vallée. Nous croyons que Jésus-Christ a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et nous regardons à son bâton de vainqueur. Alléluia. Cet endroit sera appelé un autel, sera sur cet endroit de la colline sera érigé un autel et ça sera l'autel de l'Éternel ma bannière. Oui, vraiment, dans le texte, il y a cette idée du bâton qui est levé comme symbole de puissance, mais aussi comme une bannière. Une bannière. Ça m'a toujours étonné, ça, que des gens ont donné leur vie pour une bannière. Ça m'a toujours étonné. J'avais envie de dire parfois, mais non, prends le fusil. Débat-toi avec le fusil, mais risque pas ta vie pour un drapeau. Mais c'est important, la bannière dans le combat. Parce que tant que quelqu'un avait le courage d'élever la bannière dans le combat, c'est toute l'armée qui avait du courage. Alléluia. Et c'était la décision d'élever une bannière, la décision d'aller jusqu'au bout. Merci Seigneur. L'autel, l'éternel bannière. L'autel de la croix. La bannière de la croix. Amen. Regardons à cette bannière, là où il a donné sa vie. Cette croix vide, parce que maintenant il est Seigneur. Alléluia. Que de fois dans nos combats les plus difficiles, quand nous nous sommes rappelés, quand nous avons regardé que le Seigneur sur la croix mourait pour nous, nous avons été fortifiés. Alléluia. Et le dernier mot de ce chapitre, c'est que le trône de l'Éternel a été atteint. Le dernier verset de ce chapitre, de ce texte que nous avons lu plus tôt. Le trône de l'Éternel. Une main levée. Alors, il y a deux mains levées, en fait, dans ce passage. Il y a la main levée de Moïse et il y a la main levée d'Amalek. Mais celle d'Amalek, c'est celle du rebelle. C'est le poing fermé contre le ciel. Et ça, il est dit dans l'Ancien Testament que tout péché à main levée ne pourra pas être pardonné par aucun sacrifice. Les sacrifices du Lévitique n'étaient réservés qu'aux péchés involontaires. Mais les péchés de révolte, le poing tendu contre Dieu était impardonnable. Satan ne pourra jamais être pardonné. Il est allé trop loin dans ce poing élevé contre Dieu. Et ce qui fait réfléchir, c'est quand même, quand on s'attaque au peuple de Dieu, c'est à Dieu qu'on s'en prend. Le trône de l'Éternel a été concerné alors que ça se passait dans une vallée, sur la terre, dans une vallée, tout en bas. Mais Dieu règne sur son peuple tout en bas. Le trône de Dieu sera toujours là où son peuple se rassemble. Et toucher à l'Église, toucher à des chrétiens, c'est s'en prendre à Dieu. Que dit Jésus à l'apôtre Paul? À l'époque, pas encore l'apôtre Paul. Saul de Tarse. Pourquoi me persécutes-tu? S'en prendre à l'Église, s'en prendre aux chrétiens, c'est s'en prendre au trône de Dieu même. Et ce qui fait du bien, c'est que le poing levé d'Amalek a été vaincu par le bâton élevé de Moïse. Alléluia. Alors levons nos mains en signe de prière et demandons grâce. Et dans nos combats, nous allons devoir combattre. Nous aurons encore jusqu'à la fin des combats, mais n'oublions jamais que les mains levées de Jésus sont celles qui ont vaincu le poing dressé d'Amalek. Alléluia. Au final, l'obéissance est plus forte que la révolte. Amen. Josué a obéi, il a vaincu. Amalek avait un poing levé, il a été vaincu. Que Dieu soit béni. Amen.